Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, avec Laure Broulard qui nous a trouvé de véritables pépites dans les archives sonores de la rédaction d'RTL aujourd'hui. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. C'est Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime et à la une, à la suite de nombreuses demandes, il faut le dire, des auditeurs d'RTL sur Europe 1, sur RTL.fr bien sûr. Vous savez que on vous le dit régulièrement, vous pouvez aller sur RTL.fr si vous avez été particulièrement frappé par une affaire criminelle, nous expliquer pourquoi, et on peut programmer une émission spéciale sur d'après vos choix. Et là, on a une auditrice qui s'appelle Madame Dominique Brunet qui nous faisait remarquer il y a quelques semaines que on arrivait au mois d'octobre 2014 aux 80 ans de la condamnation à mort de Violette Nozière par la cour d'assises de la Seine. C'est vrai qu'elle a été condamnée à mort le 11 octobre 1934. Alors, on le disait tout à l'heure, Violette Nozière, c'est un cas non pas unique, mais extrême hein, dans les annales criminelles françaises. C'est l'une des deux ou trois empoisonneuses, la plus jeune en tout cas, la plus jeune empoisonneuse jamais condamnée, puisqu'elle avait 18 ans quand elle a essayé de tuer ses parents. Son père est mort, sa mère a survécu, on va vous expliquer dans quelles circonstances dans un petit instant. Et puis ensuite il y a eu cette condamnation à mort et elle a été graciée. Enfin, il y a toute une histoire extraordinaire que nous allons vous raconter avec mon invité Bernard Hautecloque. Bonjour.
Bonjour Jacques Pradel.
Alors merci, moi je vous ai appelé tout de suite hein, quand on a lu ces demandes d'auditeurs, parce que vous êtes l'auteur d'une biographie qui a des allures d'ailleurs d'enquête ou de contre-enquête, hein, on peut le dire historique.
Hein, on peut le dire, oui.
Voilà, qui s'intitule Violette Nozière, la célèbre empoisonneuse des années 30. C'est un livre qui est paru aux éditions Normand.
Exactement.
Et qui a, je pense, le succès qu'il mérite, parce que, c'est ma première question, on pensait qu'on avait tout dit sur Violette Nozière.
On pensait, mais Violette Nozière, c'est non seulement, je vous ai dit, une des criminelles, je dirais carrément la criminelle française, sans doute la plus célèbre, tant en France qu'à l'étranger. Certainement, l'affaire criminelle sur laquelle on a le plus écrit, c'est une anecdote qui me fait toujours sourire, elle a une page, Violette Nozière, une page Wikipédia aussi importante que celle du général de Gaulle.
Ah bah, c'est tout dire.
Une biographie, une bibliographie longue comme la main, et elle a inspiré non seulement des historiens, mais également Claude Chabrol, un excellent film. Mais justement, moi qui ai été un de ses nombreux spectacles, j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai recherché la Violette Nozière historique, et je n'ai pas été déçu, car là comme ailleurs, la réalité dépasse la fiction.
Voilà, alors on va entrer dans le détail hein, de cette vie et de cette personnalité incroyable que des psychiatres d'aujourd'hui auraient bien aimé, je crois, pouvoir rencontrer aux fins d'expertise. On va rappeler d'abord, pour ceux qui nous écoutent et qui ne... Évidemment, tout le monde connaît le nom de Violette Nozière, mais quant à savoir exactement ce qui s'est passé, là c'est plus difficile. Donc je pense à ces auditeurs-là, hein, qui ont un vague souvenir flou de tout ça, et je vais vous raconter les circonstances dans lesquelles cette jeune lycéenne apparemment inoffensive a tenté par deux fois, à quelques mois d'intervalle, de se débarrasser de ses parents. Bande de saligots sans pitié, vous me dégoûtez. Cette phrase, hurlée par une jeune fille d'à peine 19 ans, s'adresse aux 12 jurés de la cour d'assises de la Seine qui viennent de condamner à mort cette jeune femme pour crime de parricide. Nous sommes le 11 octobre 1934. Vous l'avez deviné, elle s'appelle Violette Nozière. Voici son histoire. En 1933, Violette Nozière vit avec ses parents au 9 rue de Madagascar à Paris. Elle est lycéenne. Son père, Baptiste Nozière, travaille comme conducteur de locomotive à la compagnie ferroviaire Paris-Lyon Méditerranée. Sa mère, Germaine, est femme au foyer. Le ménage est aisé, mais sans plus. La famille mène une vie sans histoire. Ce que les parents de Violette ne soupçonnent pas, c'est que depuis ses 16 ans, cette jeune fille est devenue une spécialiste de l'école buissonnière et qu'elle collectionne aussi les amants de passage à qui elle n'hésite pas à demander un petit cadeau pour améliorer son ordinaire et surtout pour s'acheter des vêtements de prix et aussi des produits de beauté. Bref, elle se prostitue. Sa clientèle est triée sur le volet. Elle choisit ses amants chez les bourgeois aisés qui payent rubis sur l'ongle le privilège des caresses que leur procure ce joli fruit vert qui n'a pas froid aux yeux. Violette est aussi totalement mythomane, pour son père par exemple. Ben, elle raconte, alors qu'il est, rappelons-le, simple conducteur de locomotive, qu'il est un ingénieur et un inventeur très haut placé de la compagnie PLM. Parfois, elle se présente à ses futurs amants comme mannequin travaillant pour de prestigieux couturiers. Et pour ses amis qu'elle rencontre dans les bistrots du quartier latin, elle s'invente une vie de jeune bourgeoise aisée qui dépense sans compter. Mais un jour, c'est la catastrophe. Violette a attrapé la syphilis. Comment se faire soigner sans avouer à ses parents pourquoi elle a été contaminée par ce qu'on appelle alors le mal du siècle? Alors Violette invente un nouveau mensonge. Elle réussit à se procurer auprès d'un médecin complaisant un faux certificat de virginité. Dès lors, elle racontera que cette syphilis est d'origine héréditaire. Elle est donc victime de cette fatalité. C'est la grosse, la très grosse pilule qu'elle réussit à faire avaler à ses parents. Mais Violette va aller encore plus loin. Un soir, elle donne à son père, Baptiste, et à sa mère, Germaine, un sachet de poudre blanche. Elle dit qu'il s'agit d'un médicament qui les préservera de cette terrible maladie. Il s'agit en fait d'un somnifère puissant qui devait, pense-t-elle ou pensait-elle, les faire passer de vie à trépas. Après avoir ingéré la drogue que leur a donnée leur fille, les parents effectivement s'endorment profondément. Violette, qui a également absorbé, dira-t-elle plus tard, un sachet de somnifère pour se suicider en entraînant ses parents dans la mort, Violette met alors le feu à un rideau de l'appartement et elle appelle les pompiers. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. La dose de somnifère était insuffisante. Les pompiers arrivent très vite. Ils réaniment les parents qui remercient d'ailleurs leur fille de leur avoir sauvé la vie. Ça n'était malheureusement que partie remise. Au mois de juin suivant, Violette tombe amoureuse d'un garçon de 20 ans. Il s'appelle Jean Dabin. C'est un étudiant en droit, désargenté. Violette donne alors un coup d'accélérateur à sa carrière de prostituée occasionnelle. Elle couvre son amant de cadeaux, mais celui-ci doit la quitter pour rejoindre ses parents à l'occasion des vacances d'été. Alors, la jeune fille, désespérée de voir ainsi disparaître son grand amour, décide d'aller le rejoindre et de l'emmener avec elle abriter leur amour loin, très loin de la France. Mais pour atteindre ce but, il faut deux choses. D'abord, de l'argent, beaucoup d'argent. Elle sait que ses parents cachent leurs 180 000 francs d'économie quelque part dans l'appartement de la rue de Madagascar. Et la deuxième chose, c'est un gros problème qui ne peut se résoudre que par leur disparition. En effet, elle est mineure, elle est sous la tutelle de ses parents qui ne voudront pas qu'elle interrompe ses études et qu'elle quitte la France avec Jean. Il faut donc les supprimer. Le 21 août, Violette est dans sa chambre. Elle réduit en poudre avec un mortier 36 comprimés de Véronal, une drogue très connue à l'époque. Elle rédige une fausse ordonnance de leur médecin de famille qui leur prescrit ce nouveau médicament dont une prise unique les sauvera de tout problème de contamination syphilitique. Sans méfiance, les parents avalent le barbiturique. Cette fois, ils s'écroulent presque immédiatement et ils s'endorment d'un sommeil que Violette pense définitif. Pendant la nuit, la jeune fille fouille soigneusement l'appartement à la recherche des 180 000 francs, mais l'argent est trop bien caché, ou alors il a été déposé, ce qu'elle ne sait pas, dans un compte, un coffre à la banque. Elle ne trouvera en fait que 3 000 francs avec lesquels elle s'enfuit. Mais 24 heures plus tard, elle est de retour sur les lieux, et oui, elle revient sur les lieux pour voir si tout a bien fonctionné et si ses parents sont bien morts. Arrivée sur place, elle constate que Baptiste, son père, est mort. Mais Germaine, sa mère, est tombée du lit, elle respire encore. Alors Violette invente sur le champ un nouveau scénario. Elle décide de faire croire à un double suicide et elle ouvre les robinets du gaz en grand avant de courir alerter les voisins qui appellent aussitôt, bien sûr, les pompiers et la police. Contrairement à ce qu'elle avait imaginé, les enquêteurs se montrent méfiants. Ils ne croient pas au suicide au gaz. Un inspecteur constate même à voix haute que Madame Nozière lui semble présenter tous les symptômes d'un empoisonnement. Panique à bord, Violette s'enfuit, profitant de l'effervescence qui règne dans l'appartement. Elle sera reconnue 5 jours plus tard, sur le Champ de Mars, par un passant qui a vu sa photo dans le journal et qui la reconnaît. Violette est arrêtée dans l'heure, elle s'effondre et elle raconte qu'il s'agit d'une vengeance. Elle a, dit-elle, tué son père parce qu'il abusait d'elle depuis l'âge de 12 ans. Mais dans ce cas, pourquoi a-t-elle aussi empoisonné sa mère ? Répliquent les policiers. Et cela, sur le moment, elle est incapable de le dire.
RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
Nous revenons sur l'extraordinaire personnalité de Violette Nozière avec mon invité Bernard Hautecloq dans un petit instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Extraordinaire histoire de Violette Nozière à la une de l'heure du crime avec mon invité Bernard Hautecloq, historien qui a consacré des mois et des mois de sa vie, va nous le dire maintenant, pour cette enquête historique qui lui a permis de faire d'ailleurs un certain nombre de révélations et de mettre au point un petit peu les points sur les i, parce qu'on a dit, c'est vrai, hein, Bernard Hautecloq, tout et n'importe quoi sur Violette Nozière.
Extraordinaire histoire, j'irais dire extraordinaire légende, parce qu'on a dit un peu tout et n'importe quoi sans trop se préoccuper de savoir ce qui était vrai ou pas. Il faut dire que Violette Nozière elle-même y a largement participé. Vous l'avez dit, c'était une mythomane, une affabulatrice, et c'est pas son arrestation qui a arrêté cette tendance.
Alors, cela dit, lorsque l'opinion apprend cette histoire, là, qu'on vient de rappeler, c'est un choc terrible. Sur
une bombe atomique,
vrai choc.
On a inventé la bombe atomique 12 ans après, et oui, pourtant, c'est exactement...
C'est
Une stupeur dont on n'a pas idée aujourd'hui.
Et oui, parce que c'est tous les codes de l'époque qui explosent, quoi. Elle se prostitue, elle veut tuer ses parents. Enfin, c'est vraiment terrible. Alors, j'imagine que le procès va avoir une publicité extraordinaire.
Procès va avoir une publicité extraordinaire. D'autant que pour augmenter encore le suspect, n'oubliez pas qu'elle a été arrêtée seulement 5 jours après la révélation de son crime.
Ouais,
donc,
ouais.
Tous les journaux, elle a fait la une de tous les journaux pendant une semaine. Ouais. On a beaucoup entretenu le suspense et un an après, donc du 9 au 11 octobre, c'est le procès au Palais de Justice de Paris. Paradoxalement, ça a été plutôt une déception parce que beaucoup de les journalistes, le public, on y est allé un petit peu comme on serait allé à une corrida pour assister à une belle mise à mort. Or, déception. On attendait l'avant une fille absolument troublante. On découvre une grande bringue au physique quand même assez quelconque.
Oui.
On s'attendait à
aller sur la couverture de votre livre d'ailleurs.
Oui.
Photos de presse de l'époque. Oui. Enfin,
on s'attendait à des à des duels judiciaires d'anthologie. Bon, dans le fond, les débats sont plutôt banals, pas de révélations bouleversantes. Le seul élément quand même un peu intéressant du procès, c'est le témoignage de son amant, de son amant de cœur, Jean Dabin.
Alors, parlons de leur rencontre et de tout ça, parce que à vous lire, en fait, c'est quand même lui le responsable de toute l'histoire.
Effectivement, je crois c'est lui qui, sans vraiment l'avoir voulu, a déclenché la tragédie. Les ingrédients étaient là avant lui. Oui. Vous l'avez dit, dès le mois de mars, elle avait fait une tentative de suicide en entraînant ses parents dans sa mort.
Oui.
Bon, Mais Jean Dabin, par son égoïsme et son inconscience, a précipité la tragédie, je n'hésite pas à le dire.
Quel âge il a par rapport à elle? Parlez-nous un peu de lui. Ouais. Bon, parce qu'elle, elle a 17, 18
oui,
ans.
Oui, il a deux ans de plus qu'elle, donc ouais. On ne peut pas dire que... Ouais. Bon, il était plus ou moins étudiant en droit, assez paresseux, assez viveur, assez nonchalant.
Ouais.
Pas a priori un mauvais garçon, mais quelqu'un de très égoïste. Violette Nozière, vous l'avez justement rappelé, a eu des amants par dizaines, voire par centaines, dont certains la payaient. A priori, ce garçon n'avait rien de spécial, et pourtant, c'est le coup de foudre, c'est une extraordinaire histoire d'amour. Violette Nozière, comme la bonne midinette qu'elle était, est liée, pieds et poings liés, à ce nouvel amant.
Oui. Et donc, évidemment, il n'a pas été mis en cause au procès, il a simplement témoigné, il l'a défendu
pas vraiment. Alors effectivement, il a été très largement mis en cause par la justice et par les médias. N'oubliez pas que les médias à l'époque menaient une enquête parallèle et parfois plus efficace que la justice.
Ils arrivaient parfois avant la police même chez les témoins.
Alors Jean Dabin avait contre lui la quasi-unanimité de l'opinion publique, mais il a pu se disculper sans grande élégance. D'ailleurs, il n'a pas cherché le moins du monde à défendre Violette Nozière. Ouais. Il a dit, moi j'étais à Lorient, j'étais même pas au courant de son projet. Vous pensez bien que si j'avais su que son argent venait de la prostitution et a fortiori d'un double assassinat, je ne l'aurais jamais accepté. Il a rompu tout lien avec Violette Nozière et il avait quand même une sacrée dose d'inconscience, parce qu'il s'imaginait qu'une fois que, effectivement, d'un point de vue juridique, il était blanc comme neige, eh bien, il pouvait recommencer sa vie comme autrefois.
Ouais.
Mais l'opinion, notamment au Quartier Latin, qui était un gros village à l'époque, était tellement menée contre lui qu'il a été chassé de l'université et a dû s'engager, et il a témoigné au procès d'ailleurs en uniforme, a dû s'engager dans l'armée, une espèce de rédemption.
Et puis, j'avais commencé le récit tout à l'heure par ça, c'est la condamnation à mort, elle pouvait pas y échapper, quoi. Je veux dire, c'était écrit, hein. Et il y a ce sursaut, ces insultes au jury, hein,
qui font
pas partie de la légende, hein. Ça, c'est
non,
vrai.
Non, c'est avéré.
Elle a prononcé ses paroles.
Elle qui était restée complètement apathique pendant tout son procès, effectivement, elle a eu ce mouvement de révolte. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait, en fait, la condamnation se faisait en deux fois. 12 jurés populaires déterminaient si elle était coupable et s'il y avait des préméditations.
Oui.
Et ensuite, les trois magistrats professionnels, presque automatiquement, appliquaient le code pénal.
Oui.
Et un empoisonnement, c'est forcément, c'est forcément prémédité, donc peine de mort.
Donc peine de mort. Alors, on va revenir sur tout cela. Évidemment, si vous avez des questions sur la personnalité, sur tel ou tel détail de ce scénario incroyable ou de ces scénarios qu'elle a mis au point, si vous voulez savoir ce qu'elle est devenue après, on va vous en parler de toute façon, mais vous pouvez poser vos questions 3210 ou en nous envoyant un courriel sur rtl.fr.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'historien Bernard Hautecloque est l'invité de l'heure du crime pour son livre Violette Nozière, la célèbre empoisonneuse des années 30, un livre paru chez Normand Éditions qui reprend l'extraordinaire travail d'historien effectué par Bernard Hautecloque qui, comme il le disait tout à l'heure, a voulu vraiment faire la part entre la légende et la réalité. Et donc vous avez compulsé évidemment les documents d'époque, revu tous les témoignages possibles et imaginable.
Hein.
Et vous êtes allé sur place aussi, parce que on va dire pourquoi vous avez pu aller sur place. C'est parce que, en fait, Violette Nozière, condamnée à mort, ne va pas être guillotinée. D'abord, je crois qu'on ne guillotinait plus les femmes depuis un bon moment.
Effectivement, c'était depuis 1887 et ça a été interrompu pendant l'occupation, mais dans les années 30, les femmes étaient systématiquement graciées.
Voilà, donc, c'était travaux forcés à perpétuité réclusion à perpétuité.
Non, travaux forcés à l'époque, la perpétuité c'était vraiment la perpétuité. La perspective pour Violette, vous vous rendez compte, elle n'a pas 20 ans, on l'emmène dans un wagon cellulaire, qui n'était pas un wagon concentrationnaire, mais ça y ressemblait, on l'emmène à la centrale d'Agneau, la plus dure de France, et avec vraiment la perspective d'y mourir.
Ouais. Et alors, elle ne va pas y mourir parce que il y a la guerre, comme vous dites.
Elle va être transférée à Rennes.
Ouais. Elle va être graciée par Pétain, pourquoi?
Exactement.
On sait dans quelles circonstances.
Écoutez, je vous dirais que Ce qui rend Violette Nozière fascinante, bien sûr son crime, bien sûr toute la légende a peut-être une base de réalité qui s'attache autour d'elle, mais pour moi, c'est surtout l'extraordinaire façon dont elle va se réformer, se rédempter, adopter le mot que vous voulez.
Oui.
Des conditions, à l'époque, travaux forcés, les prisons étaient extrêmement dures. Mmh. Imaginez-vous cette fille, 20 ans, tous ses amis, son amant l'a renié, sa famille, sa propre mère a souhaité sa mort, c'est vous dire. Absolument seule au monde, même ses co-détenus ne l'apprécient guère. Eh bien, cette fille, elle va réussir à trouver en elle-même la force de devenir une autre femme. Elle va retrouver la foi. Et ça va beaucoup l'aider à faire un véritable travail sur elle-même. Mmh. Cette fille qui était une paresseuse, une mythomane, une fille complètement désaxée, elle va réussir à se refaire une personnalité structurée. Mmh. Elle va parvenir à se réconcilier avec sa famille. Elle va parvenir à très bien se faire voir sans pour autant failloter de l'administration pénitentiaire. Mmh. Et effectivement, au bout de 12 ans, ce qui est presque à l'époque, aujourd'hui, ça serait moins surprenant, mais à l'époque, c'était du miracle.
Oui.
Elle va parvenir à se faire gracier par le chef d'État de l'époque, c'est-à-dire le maréchal Pétain.
Et entre-temps, elle a été transférée alors à la prison pour femmes de Rennes.
Effectivement.
Ça, c'est très important.
En 1940, devant la menace de l'invasion allemande, effectivement, Haguenau a été évacuée. Elle s'est retrouvée à la prison pour femmes où le régime est un petit peu moins sévère.
Et où il y a un bibliothécaire. Un comptable, pardonnez-moi. Je sais pas pourquoi je dis bibliothécaire, voilà, bon. Bon, enfin, c'est les livres, mais c'est les livres de compte. Il y a donc ce comptable qui a un fiston.
Exactement. Ce comptable, appelons-le Giraud, a un fils, Pierre, qui, Violette, parvient par, comme elle est bien vue de l'administration, parvient à faire des petits travaux chez le comptable. Mmh. Elle fait la connaissance de leur fils et, aussi improbable que ça puisse paraître, c'est le coup de foudre.
Alors,
le deuxième coup de foudre de sa vie, mais celui-ci est mieux tombé.
Alors, le Pierre, donc, vous l'avez nommé Giraud, pour garder son anonymat, parce qu'il y a une famille encore aujourd'hui, bien sûr.
Quatre hommes et une femme qui portent ce nom.
Ouais. Et c'est une montagne. Il a fait du cash, je crois, c'est un colosse, bon. Et elle va donc sortir de prison puisqu'elle a été graciée.
En 1945.
Ouais. Et elle va l'épouser.
Exactement. Pendant un an, il y a eu, parce que sa grâce ayant été signée par Pétain, est-ce que le gouvernement issu de la libération... Mais bon, finalement, elle retourne dans son village natal pour épouser son Pierre et fonder une famille. Ouais. Détail qui vaut son pesant d'or. Sa mère qu'elle avait essayé de tuer est parmi l'assistance et elle a décidé de venir habiter avec eux.
Sa mère est venue à son mariage.
Exactement.
Et habite avec le
jeune couple.
Neuvy-sur-Loire, c'est là qu'ils vont alors s'installer.
Plus tard,
parce qu'ils vont du côté de Rouen d'abord.
Neuvy sur Loire. Bon, petit village de la Nièvre, à la limite du Loiret. En fait, Madame Nozière, mère, était originaire de là.
D'accord.
Et comme c'était la tradition à l'époque, elle était retournée accoucher de son unique enfant chez sa propre mère.
D'accord.
Baptiste Nozière, son père, était originaire de la Haute-Loire, mais il était fâché avec sa propre famille. Bref, quand elle n'habitait pas à Paris, Violette Nozière passait toutes ses vacances à Neuvy-sur-Loire, chez ses grands-parents. Oui. Et c'est là qu'elle a décidé de se marier. Mais elle n'y est pas restée et elle s'est établie d'abord dans la région parisienne et ensuite en Normandie.
Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme qui va mourir jeune, quand même, va mourir à 51 ans, en 1966, on va y revenir dans un instant avec les documents qu'on a retrouvés dans les archives sonores de la rédaction d'RTL, mais elle se marie, elle a des enfants, 5 enfants.
5 enfants.
Ces 5 enfants ne sauront rien officiellement sur leur mère jusqu'au décès de celle-ci. Vous n'y croyez pas?
Alors, n'ayant pas eu de contact direct avec eux, mais vraiment difficile d'être affirmatif dans un sens ou dans l'autre, comment décider Franchement, ça m'étonne. Maintenant, je peux pas vous dire que ce soit impossible. D'autant que enfin son aîné avait presque 20 ans à sa mort, ce qu'il n'en a jamais entendu parler. Et un autre motif de doute, c'est que Paris Match avait réalisé un reportage photo sur sa vie quelques années avant sa mort. Difficile de faire croire à des enfants que c'était uniquement par qu'on l'avait choisi comme famille française moyenne.
Alors, Bernard Hautecloque, nous qui ne sommes pas historiens, mais simples journalistes, et quand je dis nous, je devrais dire Laure Broulard, travaille dans cette équipe depuis la rentrée, a fait, je trouve, très fort. C'est-à-dire, elle s'est intéressée à Neuvy-sur-Loire. Mm-hmm. Elle a essayé de trouver des gens qui avaient connu de plus ou moins proches de la famille, et pourquoi pas des gens qui avait connu Violette Nozière. Et elle a trouvé une femme qu'on va entendre dans un instant après la pause. Elle s'appelle Marie-Hélène Chevalier. Elle connaissait très bien Violette Nozière, à tel point qu'il l'appelait sa cousine. Hein, on l'appelait sa cousine. Ah, c'est ta cousine qui est venue. Et elle a fait un certain nombre de révélations que nous allons découvrir ensemble.
L'heure du crime sur RTL.
Il y a un certain nombre de questions, de zones d'ombre encore aujourd'hui. Hein, vous le faites remarquer, Bernard Hautecloque, dans votre livre. Il y a deux grandes questions qui sont d'inégal intérêt d'ailleurs. Peut-être la plus intéressante, et ça on va en reparler tout à l'heure ensemble, c'est cette défense de Violette Nozière qui, pour trouver un mobile à son crime, va dire, et elle l'a dit aussi à un policier célèbre dont on va parler tout à l'heure.
Marcel Guillaume.
Oui, elle a dit, mais moi... mon père, j'ai été victime d'attouchements sexuels et j'ai voulu me venger, c'est pour ça que j'ai tué mon père. Et alors pourquoi ça, la mère, puisqu'on lui avait posé la question, vous vous souvenez, plus tard elle dira bah, parce que je voulais punir ma mère qui n'a rien fait pour me protéger. Donc ça c'est une des questions dont on va reparler, l'autre étant de savoir si oui ou non les enfants n'ont vraiment rien su.
Mais ça, c'est pas, un détail.
C'est vraiment un détail. Mais je rappelle les deux parce qu'on va en entendre parler maintenant à travers cette conversation que Laure Broulard a eue avec Marie-Hélène Chevalier. Alors disons, cette femme habite à Neuvy-sur-Loire. Son père connaissait très bien Violette Nozière, puisque elle a le même âge, hein, donc oui. Elle avait 11 ans quand Violette s'est mariée. Et son père, c'est lui qui appelait d'ailleurs Violette, sa cousine, il jouait avec elle quand elle venait en vacances à Neuvy-sur-Loire. Il a même été témoin d'ailleurs à son mariage.
En 46.
Et maintenant que tous les amis de Violette sont décédés, ben Marie-Hélène se souvient de ce que lui ont raconté son père et ses oncles. Écoutez-la donc au micro de Laure Broulard pour l'heure du crime.
Violette, c'était une petite fille qui venait en vacances, comme tous les enfants de la région parisienne, elle venait chez ses grands-parents. Et ils avaient une maison, là, à Neuvy, et la gamine a été élevée très bien. Violette, après ça, elle rentrait à Paris, elle avait des rêves de grandeur comme beaucoup de filles. Et elle a mené la vie qu'elle a pu, parce qu'il faut savoir que son père s'occupait d'elle.
C'est-à-dire,
soit il la tripotait, soit... En principe, il ne l'a pas violée, mais il l'a tripotée. Alors, à l'heure actuelle, c'est lui qui serait en prison, et là, c'est elle qui y a été.
Mais ça, comment vous le savez ?
Les secrets de famille, si vous voulez.
C'était des rumeurs dans le village ?
Ah non, c'était pas rumeur, c'est mon père qui me l'a dit. Tous les garçons et les filles de cette époque-là étaient au courant.
Et votre père, quand il vous en parlait, comment est-ce qu'il la décrivait ? Comment est-ce que vous pourriez me la décrire ?
J'en ai parlé avec ses cousins germains, donc qui avaient le même âge que Violette, et ils m'ont tous dit que c'était une jeune fille charmante. Bon, elle était un petit peu menteuse comme toutes les gamines à un certain âge. Elle voulait raconter un tas d'histoires sur Paris par rapport à Neuvy. Alors, elle aimait les belles voitures, elle aimait les belles robes et tout ça. Mais j'ai jamais entendu dire de mal d'elle. Ses enfants viennent encore à Neuvy régulièrement sur sa tombe.
Mais parce qu'apparemment, ils ne savaient rien de cette histoire avant la mort
de
leur mère.
Non, parce que Violette, au moment de sa mort... leur a dit, dans la cave, vous trouverez une valise verte. Je vous demande de la brûler sans la lire. Et c'est ce que les petits-enfants ont fait.
Voilà, donc ce témoignage très intéressant,
hein,
recueilli par Laure Broulard très récemment, hein, bon, avec cette femme qui a accepté, on la remercie encore de nous apporter ces indications. On va faire une pause et on va développer tout ça et parler aussi, alors surtout du fait de savoir si oui ou non Violette Nozière avait été en butte à des harcèlements sexuels venant de son père, ou si ça a été une défense peut-être soufflée par ses avocats. On en parle dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime, si vous suivez l'émission depuis le début, vous le savez, mais si vous venez d'arriver, vous ne le savez pas, alors je vous le redis, c'est Bernard Hautecloque. Il est historien et il s'est passionné pour l'histoire de Violette Nozière. Il a vraiment été aux sources des documents incontestables, ce qu'ont dit vraiment les témoins, comment s'est passé le procès, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire la part entre la légende et la réalité, entre la vérité et le mensonge, et
pas toujours facile.
C'est pas facile, toujours facile. Violette Nozière vous a pas aidé de ce côté-là.
Ah non, hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, on va revenir sur les quelques questions qui se posent encore aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende un document RTL qu'on a retrouvé dans les archives sonores de la station, qui date du 29 novembre 1966. 29 novembre 1966, bien c'est la mort de Violette Nozière qui décède des suites d'un cancer. Et ce jour-là, le journaliste d'RTL Jean-Robert Cherfis se rend à Petit-Quevilly, près de Rouen. C'est le dernier domicile c'est un hôtel-restaurant, hein, je crois. Le dernier domicile donc de Violette Nozière, qui se faisait appeler Violette Coquelet. Reportage.
Violette Coquelet, Madame Violette Nozière, c'était ici une femme comme les autres, une mère de famille qui vivait au Petit-Quevilly, sur les hauteurs de Rouen, 14 avenue des Canadiens. Là, pas de bruit, rien, des gens simples, loin de tout, on se croirait à la campagne, des gens qui se connaissent tous aussi. Et pourtant, Madame Coquelet, elle, on ne la connaissait pas. Bien sûr, on la voyait parfois, mais de moins en moins, non pas qu'elle se cachait, c'était la maladie qui la clouait chez elle.
Non, je ne la connaissais pas, monsieur, j'ai seulement aperçue quelquefois par hasard quand l'ambulance venait la chercher pour la conduire à la clinique où on lui faisait du cobalt étant donné sa maladie très grave. On ne savait pas qu'elle était Violette Nozière. On la connaissait que sous le nom de Mme Coquelet.
Elle avait des amis dans le quartier?
Je ne sais pas, monsieur. Au débat, je sais que il y avait une sœur qui venait lui faire des piqûres de morphine deux fois par jour.
Et ses enfants, comment sont-ils?
Il y a une grande jeune fille de 17-18 ans et quatre garçons, dont le dernier a 6 ans environ. Et lui, je le connais un petit peu. Parce que c'est un petit qui est très vivant et avec qui on peut parler. Qui vient quelquefois dans mon escalier jouer avec un petit camarade.
Vous lui avez parlé de temps en temps?
Oui, au petit Dominique, je le connais.
C'était un petit garçon comme les autres?
Un petit garçon très vivant, très un peu espiègle au début, mais très gentil.
On dit que Violette Nozière a eu une fin de vie exemplaire.
Oui, il y a longtemps qu'on l'a dit. On en a parlé au moment de sa réhabilitation, sa demande de réhabilitation.
Et oui, d'ailleurs, on n'en avait pas parlé, c'est le moment.
Elle a été
faire,
réhabilitée, ouais. Ce qui est extrêmement rare, ouais. Pour une criminelle de droit commun.
On efface le casier judiciaire.
C'est cela. Voilà. En 1963, 3 ans avant sa mort.
Alors, puisqu'on évoque la mort de Violette Nozière, il faut préciser, qu'elle va décider de se faire inhumer dans le caveau familial.
C'est ça.
Avec son père, notamment, dans ce village de Neuvy-sur-Loire. Oui. Alors, d'où ma question, est-ce qu'on se fait enterrer près de son père lorsque, de son vivant, on a été victime d'abus sexuels?
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça pose question, et c'est une des raisons qui m'ont fait beaucoup douter de ces accusations.
Comment elle a présenté ça, Violette Nozière? Parce qu'il y a toute une histoire que vous Absolument. Racontez dans votre livre. Comment elle explique ces
Alors,
histoires d'attouchement?
Déjà, ce n'est pas suggéré par son avocat, car elle l'a dit spontanément à Guillaume quelques heures après son interpellation.
Alors, Guillaume
le commissaire Marcel Guillaume, effectivement, ouais. le modèle de Maigret, le ouais. policier le plus célèbre de l'entre-deux-guerres. Donc, elle lui a annoncé ça spontanément. Et ensuite, devant le juge, et pourvue d'un avocat, elle garde un silence radio total pendant 4 ou 5 jours. Ouais. C'est seulement après 5 jours, et sans que son avocat apparemment ait été au courant, qu'elle exprime cette accusation. Ouais. Alors, autant vous dire que ça filtre tout de suite à l'extérieur, méga bombe atomique.
Bien sûr. Mais elle donne des détails, elle explique elle les donne circonstances des détails, dans lesquelles elle a été harcelée.
Absolument, elle donne des détails qui peut emporter la conviction, mais justement, ces détails vérifiés, elle donne des endroits, elle donne des dates, mais quand on les vérifie, eh bien, on se heurte à autant d'invraisemblances.
Elle parle notamment d'une cabane de jardin, on va dire.
D'un jardin ouvrier que les Nozières possédaient à Charenton, qui surplombait d'ailleurs les voies du PLM, et elle prétend que ça s'est passé là, or, le juge constate il est impossible de s'y tenir allongé, et en plus, c'est à claire voie, ce qui fait que n'importe qui passant sur le chemin se rend compte de ce qui se passe.
Ce qui fait que ça n'a pas été retenu au cours du procès, en fait. Hein. On a balayé cet argument. Mais Guillaume est revenu là-dessus. Marcel Guillaume, dans ses mémoires, quand même.
Ses mémoires sont parues en 37, soit 3 ans plus tard. Guillaume, à sa grande déception d'ailleurs, n'a pas été convoqué au procès. Violette Nozière, il faut le dire, voyant qu'on ne la croyait pas, n'a pas insisté. Sur ses accusations. Et Marcel Guillaume, dans ses mémoires, lui s'affirme convaincu de,
qu'elle disait
non
vérité,
pas de son innocence, mais qu'elle disait la vérité sur ce point-là et que ça lui valait au moins de très larges circonstances atténuantes. Ouais.
Vous qui avez consulté tous les éléments du dossier, il y avait des psychiatres à cette époque-là. Évidemment, la psychiatrie existait. Hein, bon, on le sait, mais il y en avait qui étaient commis pour...
Il a été examiné par 3 psychiatres, je crois, de Sainte-Anne. Enfin bref, ils ont fait un rapport très circonstancié sur son état, mais ils n'ont pas voulu... trop chercher dans cette direction-là. Vous avez tous les détails sur son niveau d'intelligence, sa psychologie, etc. Mais sur cette question d'inceste, il reste d'une discrétion remarquable. Ouais.
C'est de la pudeur de l'époque, à votre avis, ou c'est la prudence du scientifique qui se dit finalement...
Il est clair qu'au niveau de la société et des médias, il y a eu un blocage psychologique. C'est pas possible, donc cette fille ment. Bon... est-ce que, cela dit, un psychiatre, c'est tout de même que... mais je crois que c'est surtout les contradictions dans la déposition de Violette Nozière, le fait qu'elle ait d'abord affirmé ça, et puis après elle l'a plus affirmé. Une fois en prison, pendant son travail de réhabilitation en 37, elle déclarera « j'ai tout inventé ». Et après, pendant le reste de sa vie, elle n'en parlera plus, jusqu'à, à sa mort, la volonté de se faire enterrer à côté de son père, de sa victime. C'est quand même formidable, fantastique.
Je vous remercie beaucoup. Je renvoie tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui à votre livre, Violette Nozière, donc paru aux éditions Normand. Juste un mot, parce que là, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Elle a été portée au nu, à l'époque... quand même, de son procès, par les surréalistes et par Guy Breton qui disait par André Breton qui disait elle est mythologique jusqu'au bout des angles.
Absolument.
Voilà. Et donc vous en parlez dans votre livre, évidemment. Je vous remercie infiniment.
C'était un plaisir pour moi.
Merci. L'émission est maintenant terminée. Vous en savez vraiment beaucoup plus qu'au début sur Violette Nozière. On va retrouver Flavie Flamand dans un instant.